Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
I have a dream. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Il est 19h05 en temps universel, 15h05 à Washington, la capitale fédérale américaine. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Amérique et vous. Au micro ce soir, Nanit Talani, à la technique Joselle Morissin, à la réalisation, nous avons Chang. Ce soir, nous parlons de la fête du 4 juillet, pendant que les Américains se préparent à célébrer leur indépendance mardi prochain, avec des discours, des défilés, des rassemblements, mais aussi des feux d'artifice. Le 4 juillet, également appelé jour de l'indépendance, commémore normalement la publication, le 4 juillet 1776, de la Déclaration d'indépendance des États-Unis vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Que s'est-il réellement passé pendant cette période? Comment cette déclaration avait-elle affecté les Africains-Américains? Et surtout aussi, comment la diaspora africaine s'implique-t-elle pour cette fête du 4 juillet? Nous allons discuter de ces sujets, mais bien d'autres aussi, dans ce programme. Si vous souhaitez réagir, vous pouvez appeler en direct au plus 1-202-205-26-33. Un seul numéro, c'est le plus 1-202-205-26-33. Alors, comme invité, nous allons rejoindre ce soir au téléphone. Nous allons joindre plutôt au téléphone ici aux États-Unis, Cheikh Bomba, qui est le PDG de CBS System. Nous avons aussi Ruben Joanem, qui est activiste à Minneapolis dans l'état du Minnesota. Et puis, il y aura Phil Nomel, journaliste, écrivain et poète dans le Maryland, qui nous rejoindra dans la deuxième partie de ce programme. Alors, tout de suite, nous allons introduire nos invités. Bonsoir, Cheikh.
Annick, comment allez-vous?
Je vais bien, merci. Bonsoir Ruben.
Bonsoir Annick, merci, ravi d'être avec vous.
Alors nous allons commencer avec vous Cheikh. Pourquoi le 4 juillet est-il une date si importante aux États-Unis? Qu'est-ce que cette date représente dans ce pays-ci?
Je dirais le 4 juillet, c'est le jour de l'indépendance des États-Unis. Cette date est historique. Parce qu'en 1776, il y a la déclaration de l'indépendance qui a été approuvée unanimement par le Congrès continental. Et ce Congrès continental était fait des 13 colonies anglaises qui se retrouvaient aux États-Unis, ce qui nous fait dire que les États-Unis ont 247 ans aujourd'hui. Et cette date est célébrée chaque année. Mais le plus important, en fait, c'était l'annonce de la séparation avec la Grande-Bretagne. Et cette séparation, en interne, le pays est créé. Et à partir de 1870, précisément le 28 juin 1870, le Congrès des États-Unis valide le 4 juillet comme un férié fédéral. Donc voilà pourquoi, en fait, il rentre dans une phase très, très importante comme, en plus d'être le jour de l'indépendance.
Merci beaucoup. Alors, Ruben, nous avons la date du 4 juillet 1776. Il y a aussi le 4 juillet 1865. Que s'est-il passé réellement? Mais surtout, quels changements radicaux le 4 juillet avait-il apporté aux États-Unis?
Bien, des changements radicaux très significatifs. D'abord, on n'a plus affaire avec des colonies en Grèce, mais désormais, à partir de cette date, nous avons affaire avec les États-Unis d'Amérique, État fédéral, et comme notre panéliste vient de le dire, et qui constituait d'abord de 13 États. Mais la teneur de cette déclaration, de ce discours, de ce document aussi, est extrêmement significatif parce que C'est un document qui a été bien travaillé, retravaillé par Thomas Jefferson. Et ce document est remarquable pour ses chefs d'accusation contre la couronne britannique, contre, dans sa déclaration aussi, qui est d'une requête qui est commune au commun des mortels, à savoir la recherche de la vie, de la liberté et la recherche du bonheur. C'est ce qu'ils appellent, c'est ce qui est souligné dans ce document comme les droits inaliénables de l'homme. Mais la question qui se pose, et ce document est aussi remarquable dans ses limites, dans ses conceptions de l'homme. Lorsqu'on dit l'homme, il s'agit bien de l'homme occidental, de l'homme blanc. Et ce document ne reconnaît pas l'humanité des afro-descendants, des noirs.
OK, effectivement. Donc, voilà ce point. Effectivement, à ce propos, la déclaration d'indépendance disait que tous les hommes sont créés égaux, donc ils ont droit à l'égalité. Mais pourtant, à cette époque, un cinquième de la population était des esclaves et un tiers des signataires de cette déclaration avaient des esclaves personnels. Alors, est-ce que c'était une sorte d'hypocrisie de la part des pères de l'indépendance? Comment cette déclaration avait-elle affecté les Africains-Américains qui étaient des esclaves à cette époque?
Bon, si je peux aller une réponse, c'est que, bien entendu, on vivait. Désolé, on vivait à une période esclavagiste.
Oui.
C'était à la mode, et même l'idéologue de ce document, à savoir Thomas Jefferson lui-même, il était propriétaire de plus de 600 esclaves. Donc, il parlait bien sûr le langage de son temps, mais ce document, pour grand qu'il soit, a ses limites.
Okay.
C'était le langage du temps. C'était, il faut reconnaître la qualité de la pensée de ces gens, mais toutefois limitée au discours de leur époque. C'était une économie reposée le travail forcé des Noirs réduits en esclavage. Donc, il va y avoir des progrès. On va commencer à avoir une certaine mobilité qui allait affecter postérieurement la condition de l'existence des Noirs. Mais pour le moment, cette déclaration, ce discours, ce document a eu ses limites pour ce qui a trait à la démographie, pour ce qui a trait à sa conception de l'être humain. Et Thomas Jefferson possédait des esclaves, qu'il achetait et revendait sur le marché public.
Et donc, cette question d'égalité, c'était beaucoup plus en faveur des personnes qui n'étaient pas noires.
Comme je dis, oui, pour les Occidentaux.
Merci beaucoup. Alors, Cheikh, on revient vers vous. Le 4 juillet, c'est un jour férié national. Aujourd'hui, bon, qui donne lieu à de grandes célébrations. Que se passe-t-il généralement ce jour-là et que se passera-t-il mardi?
Normalement, chaque 4 juillet, je ne sais pas si vous m'entendez, chaque 4 juillet, en fait, c'est d'abord, pour le 4 juillet, je parle, est dédié à la commémoration de la signature de la Déclaration de l'indépendance et de la libération de la domination britannique. Donc, quand le document est signé le 4 juillet 1776, ça revêt une très grande importance dans l'histoire, en fait, américaine. Ça symbolise la naissance d'une nation. Et cette nation, comme mon collaborateur le disait plus tôt, est basée sur la liberté, le principe de liberté et de la liberté. Donc, aux États-Unis, et c'est une joie, parce qu'il se trouve que c'est une indépendance complète. C'est une indépendance politique, si nous pouvons le dire ainsi. Et la célébration est faite à travers les feux d'artifice, des défilés, des concerts aux réunions de famille, des barbecues plus décontractés, de part et d'autre. Et la nuit, de nombreuses personnes se rassemblent dans le parc, dans différents parcs. Il y a plusieurs plus d'une vingtaine de parcs aux États-Unis, dans les différents parcs, dans les différents endroits de rassemblement dans les cités, pour regarder le feu d'artifice, des spectacles de lumière colorée qui sont là de part et d'autre. Et les Américains profitent également en fait de pour ces 4 jours. Quand je parlais des barbecues, c'est aussi un moyen de rassemblement, de partage, de joie. Et du fait que c'est un jour férié, c'est vraiment apprécié de tous, en fait. C'est un jour de repos, c'est un jour de tout. Ils vont recevoir des amis à la maison, faire des pique-niques, et même aller en fait, griller des hot dogs, hamburgers. Et vous savez qu'ils aiment beaucoup la viande, donc c'est tout à l'honneur de barbecue que... En fait, la célébration du 4 juillet s'est faite.
Merci beaucoup. Alors, Ruben, on revient vers vous. Vous avez expliqué comment les Noirs étaient encore esclaves, mais aujourd'hui, il n'en est plus ainsi. Les Noirs célèbrent aussi cette fête. Mais qu'est-ce qu'elle représente, cette fête, pour les Africains-Américains? Est-ce qu'elle présente juste une fête d'indépendance ou il y a quelque chose d'autre?
Bon, bien sûr, les Afro-descendants, et se croit héritier à part entière de cette nation. Donc, et ça au gré, il célèbre comme tout le monde. La fête est partout. Il faut pas avoir l'idée que les Noirs sont au jour de cette célébration. Bon, ne participent pas non au festin. Non. Ils sont dedans plein pied. Et pourtant, ça n'écarte pas les séquelles existantes de l'esclavage. Il y a quand même, au niveau des institutions aux États-Unis, ce qui reste, et comme bien des abolitionnistes vont le souligner un peu plus tard, et c'est le sort des Noirs aux États-Unis laisse certaines choses à désirer. Les mesures pour maintenir les Noirs dans la servitude qui était prise pendant les siècles précédents, n'ont pas été démantelées. La position, la posture de la milice, la posture de la police non plus, n'a pas subi une évolution tout à fait verticale. Donc, là encore, aujourd'hui, en fait hier même, la Cour suprême des États-Unis vient d'annuler l'action affirmative qui permettait aux institutions postsecondaires d'avoir un regard favorable sur les formulaires, sur les demandes d'admission dans les universités. C'est totalement révoqué. Donc, yeah. On croit avoir fait des progrès, mais il reste encore beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup à faire.
Merci beaucoup. Nous allons marquer une pause et puis nous revenons pour la suite de notre émission.
L'Amérique et vous, en direct de Washington.
L'Amérique et vous, nous parlons de la fête du 4 juillet que les Américains s'apprêtent à célébrer mardi. Et comme invité, nous avons Ruben Joanem, Cheikh Bomba, mais aussi Phil Nomel qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Phil.
Oui, bonsoir Nanit, comment vas-tu?
Je vais bien, merci. Merci beaucoup d'être là. Alors, le 4 juillet, la diaspora africaine s'est aussi mobilisée pour être de la partie. Pourquoi la diaspora africaine célèbre-t-elle la fête du 4 juillet, Phil?
Alors, c'est une très, très bonne question, Nanit. Évidemment, nous sommes dans la ferveur des fêtes de l'indépendance des États-Unis. Il faut dire que la diaspora africaine qui a donc quitté ce beau continent qu'est l'Afrique et qui a donc embrassé les États-Unis comme leur seconde nation, leur second continent, se font un avec ce pays. Ils aiment bien ce pays. C'est là que leur vie se mène, c'est là que leurs enfants grandissent, vont dans les grandes écoles. Et donc, nous avons fait de ce pays-là le nôtre. Évidemment, il est important que la fête d'indépendance, je voulais déjà rappeler que l'Amérique est vieille de 247 ans, ayant pris donc son indépendance de l'État anglais en 1776, ça fait donc 247 ans que l'Amérique est indépendante. Donc nous qui sommes ici, cette jeune génération d'Africains qui avons immigré ici après donc les esclaves, nous faisons donc, je disais, tantôt un avec ce pays. Et donc, célébrer l'indépendance des États-Unis est pour nous une sorte de reconnaissance à ce pays de liberté, à ce pays d'opportunité, à ce pays qui nous donne un peu tout, qui est comme si vous voulez, pour n'en déplaire à vos auditeurs, ce pays-là qui, par sa grandeur, son économie, son aura, propage l'idée de démocratie, de liberté dans le monde entier. Donc pour nous, c'est une occasion de reconnaître donc, les bienfaits que ce pays-là qui nous accueille nous offre, mais en même temps aussi de reconnaître son action de liberté, de démocratie dans le monde entier. Nous nous retrouvons, bien sûr, pour célébrer avec les Américains que nous sommes également, et puis bon, nous retrouver en famille.
Merci beaucoup. Alors, Ruben, on se rappelle que Frederick Douglass a fait un discours le 5 juillet 1852, un discours assez poignant où il se plaignait de beaucoup de choses. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la teneur de ce discours, mais aussi son rapport avec cette fête d'indépendance?
Bien sûr, bien sûr. Et Douglass a bien souligné le fait que cette célébration de l'indépendance est bien celui des Blancs. Il a dit, c'est le vôtre, pas la mienne. Réjouissez-vous. Moi, je suis dans la peine. C'était ses propres mots. Donc, comme abolitionniste, lui qui combattait pour faire tomber la chaîne de l'esclavage sur le bras de nos confrères afro-descendants, il a bien compris, il a bien admis la valeur de ce discours, la grandeur de ce qu'on appelle communément ici aux États-Unis, de les patriarches et les pères de founding fathers. Il leur a donné suffisamment de crédit pour leur effort. C'était, comme je dis, le texte était bien travaillé et les accusations sont précises et ils ont souligner de certains traits quelques quatre caractéristiques qui sont communes à tous les hommes. Mais le problème est que c'était la limite de ce document, les insuffisances par rapport au fait que ce document a totalement ignoré l'existence des Noirs. Si on a souligné l'existence de la population indigène, les indigènes qu'ils appellent des Indiens, qu'ils ont taxé de belligérants sauvages et barbares. Par contre, ce document n'a fait aucune mention de l'existence des Noirs sous aucune forme. Donc, voilà, c'est dans ce sens que Douglass, lui, il a dit, ben, cette célébration de l'indépendance, c'est bien la vôtre, pas la mienne. Réjouissez-vous, mais moi, je suis dans la peine.
Yeah.
Parce qu'ils aspirent à l'abolition de l'esclavage. Ils voulaient voir tomber les fers, les carcans de nos confrères, les Noirs, les Afro-descendants.
Yeah, mais aujourd'hui, on voit que les Afro-descendants, ils ne sont plus esclaves. Est-ce que leur situation s'est quand même améliorée?
Il y a eu beaucoup de progrès. Il ne faut pas oublier qu'on venait d'avoir notre premier président, Barack Obama, qui est Afro-descendant. Et pour le moment, on a aussi Kamala Harris, qui est aussi qui a un certain pourcentage d'Africains. Elle est afro-descendante à une certaine mesure. Donc, il y a eu de ce progrès considérable. Mais ces progrès aussi soulignent
ce qui reste à faire au niveau des institutions, le racisme institutionnel qui est là en secret, qui entre les individus, pas trop longtemps, c'est là quelques jours, on venait d'avoir un procès contre une douzaine de police, d'officiers de police dans le Mississippi qui ont fait irruption dans la maison de deux jeunes noirs qu'ils ont matraqué presque jusqu'à mort. Donc, ces incidents, les incidents de fusillade en pleine rue que les polices exécutent presque de façon routine sur les noirs, tout ça, la façon dont on procède à la masse incarcération des noirs, tout cela dit beaucoup sur ce qui reste à faire, parce que il reste au niveau du tréfonds de l'être et de ces précieux États-Unis quelques efforts à faire pour améliorer la condition des noirs.
Merci beaucoup, Ruben, d'avoir été des nôtres. Quelques progrès, merci bien. Alors, nous revenons vers Cheikh Bamba. Vous faites aussi partie de la diaspora africaine ici. Vous vous apprêtez certainement à faire partie de la fête. Comment est-ce que vous vous êtes organisé? Qu'est-ce que vous comptez faire mardi?
Mardi, on se retrouve. Déjà, je remercie d'abord de partager ce moment. Parlant en fait du sort des Noirs aux États-Unis, c'est vraiment pénible parce que quand on regarde, je me permets de revenir sur le sujet, car quand on regarde en fait la date d'indépendance des États-Unis de 1776 et qu'on parle de la proclamation de l'émancipation le 1er janvier 1863 par Abraham Lincoln, c'est presque 100 ans. C'est presque 100 ans et déjà dans les années 1800, en fait, les Noirs américains ont utilisé le 4 juillet pour plaider en faveur de l'émancipation et de la citoyenneté, en faisant valoir que le citoyen noir est libre et asservi, avait autant de droits à la vie, à la liberté et à la recherche du bonheur que le blanc. Ils essayaient de partager cela. Et pendant des années, on attend jusqu'en 1863, avant même de proclamer en fait la déclaration d'émancipation qui dit que toutes les personnes détenues comme esclaves dans les États rebelles sont et seront désormais libres. Mais le temps déjà qui passe, ça prouve en fait que les Noirs n'étaient pas déjà considérés comme un être humain. Et c'est triste, mais c'est la réalité. Et nous avons un racisme systémique ici, mais maintenant, ce que nous remarquons, c'est que cette nouvelle, la nouvelle descendance de la diaspora africaine et la nouvelle descendance de l'afro-américaine essaie de prendre part aux différentes fêtes, surtout au 4 juillet, pour en réalité montrer notre citoyenneté.
Merci beaucoup.
Et notre organisation civique. Donc, à notre niveau, il faut qu'on puisse montrer qu'on fait partie en fait pleinement du parti du tissu, qu'on fait pleinement partie du tissu en fait des États-Unis, du tissu social et tout. Donc, c'est dans cette logique d'inclusion que nous essayons de nous associer avec, souvent on invite les voisins et tout, pour faire le barbecue et déjà aller sur Constitution Avenue et participer à la marche ou aller à DC, à Washington DC pour en fait voir le firework, le feu
d'artifice. Merci beaucoup, Cheikh. Nous allons faire Phil. Il nous reste à peine quelques secondes pour finir notre émission. Alors, Phil, merci beaucoup en tout cas d'être venu. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire mardi et avez-vous un message pour les gens qui vous suivent en ce moment? Allô, Phil? Allô, on ne vous entend pas? Allô, bon, je ne sais pas ce qui se passe, mais on a perdu Phil, on est désolé. Bon, mais il nous reste à peine 30 secondes aussi, donc nous allons marquer la fin de cette émission qui était consacrée à l'Amérique et vous. Donc, nous étions en train de parler de la fête du 4 juillet, la fête de l'indépendance des Américains. Vous pouvez réécouter sur voafrique.com et sur nos réseaux sociaux cette émission. À la présentation, c'était Nani Talani. À la technique, Gisèle Morissin. À la réalisation, c'était Chang. Bon week-end à toutes et à tous.